en compagnie de Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. On parle de Mars. Et pour revenir à nos argiles, de les trouver dans les endroits les plus anciens prouve que c'est plutôt à l'origine que...
Voilà, et on les a trouvés uniquement dans des terrains de la croûte primordiale, dans des terrains cratérisés de la croûte primordiale, et qui ne sont pas des terrains forcément en liaison avec les fameux écoulements fluviatiles qui ont fait couler beaucoup d'encre, indépendamment d'avoir fait couler de l'eau. Et ça, c'est aussi un des syllogismes que les gens ont véhiculé pendant très longtemps. Quand vous voyez un écoulement asséché, bien sûr, aujourd'hui, et c'est vrai que quand on regarde les écoulements martiens et qu'on ne met pas de légende, outre le fait qu'il y a des cratères d'impact de temps en temps, on ne sait pas si c'est martien ou si c'est terrestre. L'analogie avec la Terre, parce que bien sûr, quand vous avez un fleuve terrestre, c'est quelque chose d'alimenté, parce qu'en sur Terre, on a un système entretenu de précipitations et d'eau qui coule et qui va les jeter dans un océan, etc. Mais on sait très bien sur Terre aussi que quand vous avez une inondation dans un coup, une seule fois éventuellement, vous regardez le lendemain ce qui se passe, ça vous laisse des traces qui éventuellement peuvent rester longtemps. Et vous pouvez aussi avoir des systèmes non entretenus qui donnent la même chose. Et bien sur Mars, on est convaincu maintenant que l'essentiel de ces grandes vallées fluviatiles ne procède pas d'un processus entretenu qui voudrait dire qu'à un moment donné, il y a eu des précipitations et de l'eau qui a coulé et qui allait se jeter quelque part. Il est tout à fait possible que l'eau n'ait jamais maintenu l'existence de lacs, de mer ou d'océan très longtemps. Il se peut très bien qu'après avoir coulé, l'eau soit rentrée dans le sol à percoler et soit gelée sous forme de permafrost. Et ce n'est pas là qu'on a trouvé les argiles. Là où on a trouvé des argiles, c'est dans des terrains qui se sont faits avant même que ces écoulements pluviatiles aient lieu. Donc ils sont faits très peu après la formation de cette planète, quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années après la formation de la planète, dans la croûte elle-même.
Alors, après avoir découvert tout cela, les différents endroits, les différents types de minéraux, est-ce que vous êtes capable de raconter une histoire de Mars depuis ces 4 milliards et demi d'années jusqu'à aujourd'hui qui tienne compte de toutes ces observations réalisées
par l'espace ? Si on prend les roches comme les traceurs de l'évolution, et je crois qu'on peut écrire réellement maintenant une histoire minéralogique de Mars qui recouvre une histoire climatique et que maintenant on la fasse couler dans le temps à partir de la formation. En termes simples, l'histoire serait la suivante. On commence par former la planète, elle cristallise une croûte, et peu de temps après, parce que vraisemblablement, je l'expliquerai éventuellement plus tard pourquoi, l'intérieur de la planète était constitué d'un noyau qui lui aussi était fait essentiellement de métal liquide dont en partie a pu entretenir un champ magnétique. Cette planète, parce qu'elle avait un bouclier magnétique, a pu maintenir une atmosphère. Et parce que l'atmosphère a été maintenue, il a pu y avoir des gaz à effet de serre qui ont fait que la température initiale à la surface de la planète, alors qu'elle était loin du Soleil et que le Soleil était une étoile relativement peu lumineuse au démarrage, donc il faisait beaucoup plus froid dans le système solaire, l'existence de gaz à effet de serre a pu faire en sorte que dans l'histoire de la planète, de l'eau était stable à l'état liquide.
Pourquoi le champ magnétique permet l'existence d'une atmosphère ?
Parce que le Soleil, quand il était très jeune, était une étoile dont la luminosité était probablement faible, peut-être 25% plus faible qu'aujourd'hui, donc à nouveau c'était une étoile qui faisait qu'il faisait froid partout, mais en même temps c'était une étoile dont on est à peu près sûr aujourd'hui qu'elle avait deux autres effets très importants. Le premier, c'est que c'était une étoile, probablement parce qu'elle était en rotation rapide, qui était ce qu'on appelle un émetteur ultraviolet très intense. C'est une étoile qui à la fois avait une luminosité très faible, mais qui émettait un rayonnement ionisant très fort, si bien que le Soleil avait une capacité de ioniser toutes les atmosphères planétaires à un très haut niveau. La deuxième chose, c'est que cette planète, cette étoile, le Soleil jeune, émettait un vent solaire beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et si vous couplez les deux choses, le fait que les atmosphères étaient ionisées et que le vent solaire était très intense, vous apercevez qu'une atmosphère qui n'est pas blindée contre cela, qui n'est pas protégée contre ça, peut être soufflée simplement par l'interaction du vent solaire, etc. On a compris maintenant des mécanismes de physique du solide qui montrent que lorsque vous avez un plasma chaud, comme était le vent solaire très intense au démarrage, sur une atmosphère très ionisée, en très peu de temps, à l'échelle de quelques dizaines de millions d'années, vous pouvez virer plusieurs barres hors de cette atmosphère. C'est très difficile de retenir l'atmosphère.
Donc il faut un bouclier magnétique.
Donc il faut un bouclier contre cela. Il y a plusieurs manières de le faire, mais le champ magnétique a probablement été l'ingrédient le plus critique pour prémunir les planètes contre l'évacuation par ce soufflage du soufflage du vent solaire.
Donc Mars démarre avec ce bouclier magnétique qui permet à
l'atmosphère d'exister. Donc toutes les planètes qui avaient un champ magnétique ont pu avoir ça. Il fallait que ça dure suffisamment longtemps parce que ce soleil jeune a été létal pour les atmosphères pendant probablement des centaines de millions d'années. C'est pas quelque chose qui s'est arrêté rapidement. Donc il a fallu que le champ magnétique, c'est ce qui s'est passé sur la Terre, probablement sur Vénus aussi, il a fallu que ce champ magnétique soit entretenu peut-être pendant 1 ou 2 milliards d'années au moins. On sait que sur Terre, ça s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. sur Mars, on a toutes les raisons de penser que le champ magnétique était effectivement quelque chose de très solide, de très costaud, de très fort, tout au début de l'histoire. Mais en même temps, on s'est aperçu que ce champ magnétique a rapidement décliné. Et ça, on le voit parce que lorsque le volcanisme est arrivé sur Mars, et que donc les roches sont passées par un état liquide et qu'elles sont resolidifiées, elles se sont solidifiées sur une planète qui n'avait plus de champ magnétique. Parce qu'on sait en physique que lorsque vous avez des roches qui se solidifient en présence d'un champ magnétique extérieur, elles piègent ce champ magnétique. Et elles piègent ce champ magnétique à la fois en intensité et en direction. Elles fabriquent ce qu'on appelle un magnétisme rémanent, qui reste pour toujours. Et on s'aperçoit qu'actuellement, sur Mars, il y a des roches qui se sont solidifiées en présence d'un champ magnétique, celle de la croûte initiale, des premières centaines de millions d'années. Et le volcanisme en particulier qui a formé Tarsis, cet énorme dôme très important qui est arrivé un petit peu après. Bien sûr, quand Tarsis s'est formé, il s'est formé à partir de la recristallisation de roches volcaniques. Donc on est passé à haute température, on s'est solidifié. Si au moment de la solidification, il y avait un champ magnétique, Tarsis serait magnétique. Or, il n'y a pas de champ magnétique rémanent sur Tarsis.
Qu'est-ce qui se passait à la surface de Mars pendant que la planète était protégée par le champ magnétique pendant ces quelques centaines de millions d'années?
Eh bien, il a pu y avoir, c'était l'époque où il n'y avait pas encore probablement de volcanisme très important, la croûte était cratérisée, ce qui dominait dans tout le système solaire, sur Mars aussi, mais aussi sur la Lune et sur la Terre, c'était cet énorme bombardement qui procédait du fait que l'accrétion de ces petits constituants de la nébuleuse d'origine, de ce disque d'accrétion, ont mis beaucoup de temps pour disparaître. Et donc, il y avait un énorme bombardement pendant plusieurs centaines de millions d'années dans le système solaire. C'est lui qui a cratérisé cette croûte initiale de Mars, que l'on voit encore aujourd'hui. Eh bien, cette croûte initiale de Mars s'est solidifiée en présence d'un champ magnétique à nouveau, et probablement était au-dessus d'elle, il y avait une atmosphère suffisamment dense pour qu'elle entretienne, par les gaz à effet de serre, de l'eau stable à l'état liquide. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour que cette croûte puisse être humidifiée suffisamment par de l'eau qui a, en particulier, et en grande partie, transformer les roches de surface en argile. Et ça a pu marcher tant que, précisément, le champ magnétique a protégé cette planète. C'était la première ère de l'histoire de Mars, qui, à mon avis, est très importante, parce que si on recherche un moment dans l'histoire de Mars où on avait tous les ingrédients possibles pour que la vie ait pu démarrer, c'est à ce moment qu'il faut les chercher, et on a pu identifier les endroits où. Les endroits, ce sont ceux où aujourd'hui on trouve encore ces roches hydratées qui datent des premières dizaines ou centaines de millions d'années de l'histoire de cette planète.
Est-ce que ce sont des endroits qui sont en altitude parce que justement tous les autres ont été recouverts par, pas dire l'érosion, mais en tout cas par les différents événements qui se sont passés sur la planète ensuite?
L'endroit où on trouve les argiles sont les endroits qui sont, où on voit encore la croûte primitive qui a été ramenée en surface par ces impacts. Cette croûte primitive, il se trouve qu'on la trouve surtout sur les hauts plateaux de l'hémisphère sud, mais pas uniquement sur les hauts plateaux de l'hémisphère sud. Il y a des endroits jusqu'à des altitudes proches de ce qu'on appelle l'altitude zéro et même quelques altitudes négatives actuellement, où on trouve des affleurements de terrains encore très anciens. Les plateaux cratérisés ne sont pas uniquement dans les plateaux les plus hauts en altitude. Donc il y a des terrains de relativement basse altitude, donc en plus accessibles par des sondes spatiales qui ont besoin d'atterrir sur des endroits où l'atmosphère actuellement est suffisamment dense pour ralentir des parachutes. On peut avoir accès à de tels sites, même si on se pose à des altitudes proches du zéro de référence.
Combien dure cette première phase? On parle de 500 millions d'années, c'est difficile, c'est un ordre de grandeur. On a beaucoup de mal à savoir quand la catastrophe qui fait que Mars perd son atmosphère change la donne.
C'est très difficile à dire et je suis assez réticent à partir des résultats que l'on a à donner des âges absolus. C'est assez facile de donner une chronologie. Je pense qu'une grande partie des âges absolus sont faux parce qu'ils se basent sur des références qui doivent être, à mon avis, modifiées. Et ça ne change pas grand-chose, à vrai dire, à l'histoire. Cette histoire peut très bien n'avoir duré qu'à quelques dizaines de millions d'années, peut-être des centaines de millions d'années, mais rien ne dit que ça ne s'est pas arrêté 100, 150 millions d'années après la formation de la planète. Ça a pu perdurer, ça a pu revenir par... Ce qui est important, je crois, c'est de voir que peu de temps après que le champ magnétique se soit arrêté, alors il y a eu en cascade d'autres épisodes qui sont formés, mais qui sont couplés, et c'est ça qu'on a montré, je crois que c'est très important. Et le premier des grands épisodes qui a été couplé, c'est l'apparition du grand volcanisme de surface, qui, contrairement à ce que l'on a toujours pensé sur Mars, n'est pas le volcanisme à travers les énormes volcans martiens. Les volcans martiens ont cette capacité, cette particularité d'être très peu nombreux et énormes. Le mont Olympe, 27 km d'altitude, tous les volcans ont plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, enfin entre 20 et 30 km. Donc quand on les voit, on a tendance à dire que ce volcanisme devait être intense. En fait, le volcanisme par le volcan martien n'était pas un volcanisme très très fort. Et on le voit de plusieurs manières, d'abord parce qu'il y a peu de volcans, et parce que dans les caldeiras des volcans, maintenant, où on voit une succession d'épisodes depuis quelquefois plusieurs milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, on peut montrer que l'âge des différentes éruptions volcaniques jalonne à peu près toute l'histoire, ce qui veut dire que les éruptions les plus récentes n'étaient pas suffisamment violentes pour avoir recouvrir les éruptions anciennes. Et il y a pu y avoir 5, 10, 15 éruptions par volcan, ce qui ne fait pas énorme. Or, toutes les plaines du Nord ont été recouvertes par de la lave volcanique, ce qui veut dire que cette lave volcanique ne procède pas de l'écoulement depuis les volcans. Les grandes laves qui sont arrivées pour remplir toutes les plaines du Nord, sur pratiquement la moitié de la surface de cette planète, ne procèdent pas d'écoulement volcanique des volcans. Ça procède d'un remplissage exactement comme les mers lunaires. Les mers lunaires ont été remplies par de la lave qui est venue d'une mer infusive de dessous. C'est comme ça que probablement les plaines volcaniques du Nord ont été remplies.
Avec des volcans qui ont disparu
pour avec ces des volcans, si on veut, par des trous, des trappes qui sont sous les laves elles-mêmes actuellement qu'on ne peut pas mettre en évidence. Mais au même moment, ou peut-être avant qu'il y ait eu ce remplissage donc, des plaines du Nord par la lave, il y a eu cet énorme, le grand événement volcanique de cette planète qui a réellement changé toute l'histoire de la planète et que nous, on qualifie comme responsable de ce qu'on appelle le changement climatique global de cette planète.
Quel est-il ?
C'est la formation de Tarsis. Il y a eu un énorme phénomène volcanique qui est directement couplé, on pense, à l'arrêt d'ailleurs du champ magnétique et de ce qui s'est passé dans le noyau de la planète. L'arrêt de la convection dans le noyau de la planète qui a donc signé la mort du bouclier magnétique a fait qu'à l'interface entre le noyau et le manteau, il y a une accumulation en fait d'instabilité thermique qui ont donné naissance à des plumes montantes qui ont été à l'origine de ce qu'on appelle des plumes de degré 1, c'est-à-dire des plumes qui ne sont venues qu'en un seul endroit de la planète et qui ont fabriqué cet énorme dôme que représente Tarsis, 10 km d'altitude sur plus de 1000 km, un truc gigantesque quand on y pense, bien plus grand que tous les édifices volcaniques qu'on peut concevoir. Une énorme fraction de la planète a été recouverte par ces laves. Et si c'est important, c'est que quand vous avez des laves qui arrivent en surface, certes, ça recouvre par les laves une grande partie de la planète, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est deux choses qui sont couplées. La première, c'est que quand ça s'est passé, parce que le champ magnétique s'était arrêté depuis longtemps, au moment où le volcanisme est arrivé en surface, avec la formation de Tarsis, cette planète avait déjà perdu son atmosphère. Et donc Tarsis s'est fait hors atmosphère pour l'essentiel, avec une atmosphère qui devait ressembler à ce qu'est notre atmosphère martienne d'aujourd'hui. Mais la deuxième chose importante, c'est que quand vous avez du volcanisme, il n'y a pas que de la lave qui arrive en surface. Il y a du gaz, on le sait bien. Quand on va sur Terre prendre un volcan, la première chose qu'on sent, c'est du soufre. Et effectivement, probablement au moment de Tarsis, il y a eu d'énormes quantités de composés soufrés qui sont passés dans l'atmosphère. Et ces composés soufrés, essentiellement du CO2 probablement.
Très beau gaz à effet de serre.
Extraordinaire, sauf qu'immédiatement, il y en a eu très peu, il s'est oxydé en SO3, avec un petit peu de vapeur 2, ça a donné du H2SO4. Et ça a donné immédiatement effet de serre, oui, mais il n'y avait plus rien comme atmosphère à réchauffer pour l'essentiel parce que l'atmosphère avait disparu. En revanche, vous avez eu l'équivalent de pluies acides massives qui font que, d'une part, du soufre, il y en a eu partout à la surface de Mars. Et ça, c'est ce que les sondes Viking elles-mêmes nous ont montré. Viking a montré qu'il y a plusieurs pourcents du régolithe martien qui est fait de soufre. On n'a jamais su pourquoi ni comment. C'est simplement parce que, quand Tarsis s'est formé, ça a aspergé du soufre absolument partout sur cette planète en surface, à l'échelle de toute la planète. Mais ce soufre, c'était souvent de toutes petites particules qui est invisible à tous les spectromètres. Et ensuite, lorsque Tarsis a accumulé cette énorme charge volcanique, ça a tellement, par son poids, modifié la lithosphère que ça a créé cette énorme faille qui est devenue Valle Marineris, une énorme cassure dans la croûte de Mars. Et en faisant cette croûte martienne ouverte, ça a fait des tilts locaux, il y a de l'eau qui est remontée en surface parce qu'il y a le fond géothermique qui est monté à cet endroit-là. Des inondations ont eu lieu. Et c'est ça qui fait que de l'eau est arrivée en surface de manière très localisée autour de Valle Marineris. Et c'est ça qui a donné naissance à l'apparition de sulfates. Les fameux sulfates qu'on a vu, opportunités que nous avons vues, proviennent de la cimentation de tout ce soufre qui était là initialement dans des endroits où l'eau est arrivée massivement en surface.
Parce que où était passée l'eau au moment où l'atmosphère avait commencé à disparaître et juste avant que le volcan, et en tout cas
à la fin de l'ère des argiles, lorsque l'eau a disparu parce que le champ magnétique a disparu, l'eau liquide n'avait que deux possibilités. Une partie est partie dans l'atmosphère, s'est évaporée et elle a été chassée comme tout le monde par la pression du vent solaire. Une autre partie a pu rentrer dans le sol, percoler dans le sol et essentiellement se geler, former ce qu'en français on appelle un pergélisol, ce que les anglais appellent un permafrost, dans certains endroits. Et donc il y a de la glace souterraine qui s'est formée. Et cette glace souterraine, elle y est restée pour toujours, jusqu'à ce que, par le volcanisme, localement, elle ait pu remonter en surface par la montée de ce front géothermique. Et c'est ça qui a donné naissance à ces inondations qui, localement, essentiellement en liaison avec l'apparition de Tarsis à nouveau, parce que c'est là que la tectonique a, a fabriqué le plus de manifestations de surface, ça a inondé localement cette planète. Et ces inondations, on les voit aujourd'hui sous la forme de ces sulfates qui ont été mis en évidence. Mais à nouveau, quand les sulfates se sont formés, l'atmosphère ayant disparu, l'eau ne pouvait pas rester liquide très longtemps. Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas une période favorable pour que le vivant se fasse. En revanche, si le vivant a pu émerger plus tôt, alors à ce moment-là, il a pu éventuellement repartir pour quelques éléments suivants.
Donc, c'est une myriade de lacs acides qui se composent et se décomposent en fonction des mouvements.
Et s'évaporent immédiatement.
Et s'évaporent immédiatement. On a idée de la longueur de cette période-là
Probablement extrêmement brève, sporadique. Tous les événements, ce sont des événements très transitoires, qui ne sont qu'une fois, comme une éruption. Ça peut durer des jours, peut-être des semaines, mais pas plus longtemps que ça. Mais ça peut se reproduire une fois tous les 1000 ans, 1 million d'années, 100 millions d'années. Donc on peut avoir des phénomènes sporadiques successifs, éventuellement sur une période assez longue, qui peut typiquement, si on veut mettre des âges, dater de 3,1 milliards d'années à 3,7 milliards d'années. Mais ce sont à chaque fois que des petits événements en termes de durée, à nouveau pas suffisamment longs pour entretenir une activité aquatique, mais qui peuvent ensuite laisser des traces pérennes pour toujours.
Oui, parce que la composition d'un plateau comme Tarsis, ça met beaucoup, beaucoup de temps à se fabriquer. C'est un phénomène relativement long.
Absolument, mais
pour une telle taille,
tant que Tarsis s'est formé par l'accumulation de ses laves, il n'y avait plus d'eau avant, et il n'y a pas eu d'eau pendant la formation de Tarsis. C'est une fois que Tarsis s'est formé, qu'il s'est consolidé, et que par son poids, il a fait craquer cette croûte, qu'alors le front géothermique a pu, par cette croûte ouverte, et c'est pour ça qu'on trouve les dépôts de sulfate dans Valles Marineris, réellement, dans des dépôts de Valles Marineris, ça a pu former a posteriori ces sulfates que l'on voit aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de sulfate sur les flancs de Tarsis. Il n'y a pas de sulfate dans des volcans ou dans des éjectables de cratères sur les flancs des volcans. Il n'y a des sulfates que dans des endroits où, par des inondations qui sont arrivées à la suite de la formation de Tarsis, il a pu y avoir de l'eau qui est arrivée en surface. Mais à nouveau, cette eau qui est arrivée et qui a fait des inondations, très vraisemblablement, n'a pas pu rester extrêmement longtemps à la surface.